Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Une expérience de réséda, ça marche assez bien. En fait, c'est pollinisé pas tellement par les abeilles, c'est pas tellement visité par les abeilles, mais il y a plein de petites abeilles sauvages, toutes minuscules, qui viennent polliniser. Après, il y a des trucs, le maroube blanc, qui est en train de venir en fleur. Alors ça, c'est normalement, ça devrait venir en fleur. C'est de Eldolcia, c'est un nom. Eldolcia, c'est un nom. Ah ben voilà, tu vois, t'as la fleur qui arrive. Donc voilà, ça c'est très bien, ça va être en fleur un peu plus tard, donc il faut de la fleur.
Épisode 2, des jardins en commun.
Derrière c'est népeta ou herbe au chat, donc ça c'est en fleur, ouais, on peut l'appeler menthe, je sais pas quoi. Bon, ça c'est en fleur depuis début août, quoi. Okay. Le nom m'échappe parce que je l'ai planté juste cette année. Et puis je suis très content, je vais en faire plein l'année prochaine. Ça monte bien en fleurs à cette période. Et là, on voit un bourdon dessus.
Ouais. Voilà. La plupart du temps, c'est des fleurs qu'on trouve dans le coin.
Je sais pas trop. Ouais. Tu vois, moi, je sais pas trop. Il faudrait voir un spécialiste d'écologie locale. Je sais pas trop. En fait, c'est un persillier. En fait, c'est très très bien dans la fleur.
Rappelez-vous, nous sommes en visite dans des jardins collectifs ci et là dans la vallée. Dans le premier épisode, au cœur de nos balades botaniques, nous discutions politique. Nous réfléchissions à la question suivante. Qu'est-ce qui nous empêche de jardiner? Un manque d'intérêt, de temps, d'espace? Des jardiniers et des jardinières nous ont raconté ce que le jardin collectif leur permettait, socialement, écologiquement et politiquement, sur leur territoire et bien sûr dans leur vie. Olivier, du Jardin Bleu à 10, évoque le jardin partagé comme un espace où se jouent des interdépendances entre environnement rural et mode de vie et pratiques urbaines.
Le Diwa, ici où les jardins du Perrier étaient des jardins ouvriers, et qui étaient quand même des jardins de subsistance. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un rapport à leur jardin très propriétaire, c'est-à-dire que c'est leur lieu du jardin comme étant son petit royaume.
Viens te balader. Viens te balader. Dans le verger du paradis.
C'est ça.
C'est plus trop beau.
Le jardin, c'est un lieu, je crois, non persan, qui veut dire paradis, un truc comme ça. Donc, il y a ce rapport-là, très exclusif, où il y a cette tradition, on va dire, voilà, d'un jardin où c'est soi-même qui créons ses propres ressources. Donc maintenant, comme on est en train de devenir le 21e arrondissement de Paris, on est en train de devenir un territoire rural avec des mentalités d'urbain. Donc la pratique, la relation à la terre est en train de changer. Et effectivement, on est en train d'apporter la pratique du jardin partagé urbain, parce que en ville, là, il n'y a pas le choix, il y a très peu de jardins accessibles, donc là, ils sont dans le partage forcément, et puis dans une réappropriation de la relation au vivant, au jardin, etc. Donc que ce soit partagé en ville, je trouve ça très très cohérent. Ici, c'est un peu perturbant. Parce que du coup, il y a cette pratique urbaine du jardin partagé au motif qu'il y a peu de terre. Et aujourd'hui, on est sur des espèces de malentendus entre le jardin privé comme lieu du paradis personnel que l'on crée, comme cette ancienne définition, aussi lieu de subsistance, mais aussi avec des nouvelles pratiques où des gens, des urbains viennent de façon très légitime, et j'en fais partie, hein, je ne m'exclus pas du tout hein, là-dedans, très légitimement viennent se réapproprier la question de la relation à la terre, de la ruralité, etc. Et bien justement dans des modes et dans des imaginaires et des, qui viennent plutôt du territoire urbain que du territoire rural. Ça peut créer des malentendus. Et moi, ici, je le vis tout à fait. Des gens voudraient que je sois l'animateur d'un jardin collectif, mais malheureusement, je n'en ai pas ni les moyens, ni le temps, etc. Et peut-être même le désir. Et quand je suis dans cette relation à la location, donc créer des petits îlots de maraîchage individuel, et ben là aussi c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait satisfaisant parce que du coup c'est comme si je continuais ce rapport très privatif à la terre.
La proposition est intéressante. Voir les jardins partagés comme le résultat d'un ensemble de pratiques inspirées par des imaginaires urbains. Le manque d'espace, des modes de relation aux autres, etc. Seulement, ne devrions-nous pas repenser la dichotomie urbain-rural, ville-campagne, et considérer que l'activité du jardin collectif s'adapte aussi à un contexte qui est le nôtre, à un territoire, à la fois influencé par les espaces urbains, mais ayant également ses logiques propres.
Est-ce qu'il n'y a pas peut-être ici cette envie de jardin collectif aussi parce que la population peut-être qui le désire et qui le veut peut avoir des origines, admettons, urbaines, mais aussi parce qu'il y a peut-être un réel manque d'espace, d'accès à la terre et de terre en fait.
Moi, ce truc-là... je le prends pas de cette manière-là. Si on s'en tient à l'espace du Perrier et enfin vraiment tout autour de Die, oui, effectivement, moi j'ai eu je dis toujours, il fallait pas chercher cette parcelle pour la trouver, quoi. Voilà. Ça faisait 10 ans qu'on habitait ici, enfin 8 ans qu'on habitait là. Donc au bout d'un moment. On est au courant de quelque chose, quoi. Donc, mais il n'y a pas eu d'annonce. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, pour acheter et trouver un jardin à Die, soit c'est cher, soit il n'y en a pas. Et donc, ça devient un truc de privilégié. Donc là, ça ne va pas du tout, quoi. Mais si on retourne la situation en disant, mais je veux un jardin, mais pourquoi je veux un jardin? Quelle est la raison fondamentale de vouloir un jardin? Pour l'instant, les quelques expériences que j'ai, mais c'est pas scientifique ce que je veux dire, mais les quelques expériences que j'ai, les gens qui viennent même louer une portion de jardin dont on pourrait trouver que c'est cher, je suis critique dans le sens où je trouve même ces personnes dans une relation relativement faible à leur jardin. Une fois qu'on a fait l'expérience que c'était dur de retourner la terre, que c'était dur d'arroser un jardin, et que s'il fait chaud l'été et que c'est harassant, une fois qu'on a fait cette expérience-là, et qu'on a finalement des tomates fin août, finalement on va toujours à la COP ou sur le marché pour trouver ces légumes. Finalement, ce que je me dis, c'est que l'allocation de mes petites parcelles fait que des gens se mettent à l'épreuve. Ils mettent à l'épreuve leur désir. Et le fait que ça soit payant, finalement, c'est l'échange que si le projet de faire un jardin, vous l'abandonnez parce que c'est trop dur et que c'est trop de temps et que c'est machin et que finalement, on a juste 3 tomates à la fin de la saison, en retour, la relation pécuniaire m'assure, moi, que je vais pouvoir labourer. Je ne peux pas En gros, hein, je ne peux pas perdre du temps et de l'argent, je ne peux pas m'épuiser à ce que d'autres personnes réalisent un désir.
C'est sûr, jardiner c'est fatigant. Jardiner ensemble, ça l'est aussi. Ça demande du temps, de l'organisation, à certains moments de prendre sur soi et surtout de l'assiduité. Hors micro, nous continuerons de discuter et Olivier nous fera part d'un questionnement qui nous a paru assez fondamental. Quelle est la raison commune à s'organiser collectivement autour d'un jardin ? Selon lui, faire un jardin ensemble demande à ce qu'il y ait une raison, un but commun, identifié, clair, qui soit partagé de tous. Si des jardiniers et jardinières voient le jardinage comme un loisir momentané, ils ne s'impliqueront pas de la même manière que des jardiniers et jardinières allant vers une autonomie alimentaire, ou bien encore que des jardiniers et jardinières désirant aider au développement d'une vie sociale dans leur village, leur hameau ou leur quartier. Revenons un instant sur cette dichotomie urbain-rurale et sur les problématiques liées aux évolutions des territoires ruraux. Dans le premier épisode, Yves, de la Répara au Ripple, me contait qu'il observait un intérêt pour le jardin venant des fils et filles d'agriculteurs de la commune et que par ailleurs, un très grand nombre des habitants et d'habitantes ne s'y intéressaient pas. Je lui demande pourquoi.
Il y a plein de raisons. Il y a déjà des rivalités dans des petits villages comme ça, il y a toujours. Après, il y a le temps, il y a l'éloignement, les gens qui bossent, c'est vrai qu'ils n'ont plus le temps quand ils rentrent le soir. Moi, je vois bien ici, les gens ils travaillent sur Valence ou Montélimar. Quand ils rentrent, ils ont autre chose à faire que d'aller voir les voisins. C'est dommage, mais...
Et quelle solution pourrait être apportée pour que ces gens-là puissent jardiner, disposer de temps, disposer de l'envie pour jardiner?
C'est toute la société qu'il faut revoir. Là, c'est pas moi. Là, il y a des idées intéressantes en ce moment au niveau mondial. Hein. La ville du quart d'heure, c'est pas... C'est tout faire à moins d'un quart d'heure de chez soi. Ça, c'est une belle utopie. Hein. Pourquoi pas? Mais bon, il faut revoir l'emploi, il faut revoir l'habitat, faut tout revoir. C'est pas...
Et est-ce que tout revoir, c'est quelque chose qui... te paraît
obligatoire.
Intéressant.
Non seulement intéressant, mais ça sera obligatoire. On va être obligé d'y passer. Hein.
Voici le bruit
du vent
dans les
courgettes.
Bonjour mesdames. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? C'est agréable de pousser dans un jardin comme ça. Et vous aimez le vent ? Vous êtes jolie. Tu les trouves jolies ?
Bien oui.
Je reconnais ça quand tu dis que les jeunes, du coup, enfants d'agriculteurs, d'agricultrices, ont quand même peut-être cette façon, ces habitudes, ces façons de faire et vont s'impliquer dans la vie communale ou en tout cas dans la vie agricole. On remarque bien que tous ces agriculteurs qui à un moment donné sont partis en ville parce que
oui.
Une très grande partie très des gens ont des grands-parents qui étaient agriculteurs. Donc toute cette population-là d'agriculteurs est partie. Donc ces gens étaient un peu... exode et du coup dépossédé et des moyens de production agricole et de l'univers qui l'entoure. Et comment en fait faire qu'il y ait une revalorisation de cet espace agricole, de cet univers agricole et de cet intérêt pour la production de ses propres moyens de vie, en fait.
Ça, c'est un grand sujet, mais ça touche tellement de domaines. Moi, ce qui me choque le plus en ce moment, c'est et pourtant, la loi, au niveau national, a priori, on est en train de faire marche arrière, Mais quand on voit tous ces lotissements partout, je trouve ça une aberration. Chacun son petit lopin. Enfin, c'est pourquoi pas faire plus de collectifs. D'ailleurs, sur la commune, là, tout à l'heure, je vous parlais de. On envisage de faire quelques logements. Mais il est, enfin, pour moi, il est inenvisageable de faire des maisons. Et on va faire un immeuble, mais un petit immeuble, mais quelque chose de partagé, toujours dans le lien, et puis d'utiliser l'espace. Si on a un hectare et qu'on met 5 maisons sur un hectare, chacun a 2000 m². Si on met un immeuble, tout le monde a un hectare. L'intérêt, il est là. Il faut arrêter de manger du foncier.
Et du coup, dans cette logique-là, si on arrêtait de manger du foncier, si on privilégiait les jardins, du coup, on aurait un autre regard sur un certain nombre d'espaces qui sont non cultivés.
On garderait ce qui est cultivé, au lieu d'en faire des autoroutes, des routes, des voies d'accès à des lotissements, des zones industrielles. Et, enfin, il faut arrêter l'expansion à tout craint. C'est un truc... c'est aberrant comme fonctionnement.
Toi, tu pourrais t'imaginer un avenir. Est-ce que tu aurais envie de t'imaginer un avenir où chaque espace habité par des humains aurait son espace de jardin pour tenter le plus possible de produire de l'alimentation pour cet espace humain?
Oui, mais non seulement je l'imagine, mais ça se fait déjà. Hein, les friches industrielles qui sont reconverties en jardins partagés, ça se fait aux États-Unis, ça se fait en France, ça commence à se faire de plus en plus. Hein, il faut utiliser l'espace qui... Au lieu de laisser des ruines industrielles, il faut tout démolir et puis faire du jardin.
Tout démolir?
Bah ouais, pourquoi pas? Tout simplement...
C'est la fin de la saison, il leur faut un peu ranger des trucs.
Comment on lutte contre cette expansion du...
Ça, c'est politique.
De l'urbanisme.
Ça peut venir que d'en haut. Parce que si on offre aux gens la possibilité d'avoir... Si sur un terrain... Moi, j'en reviens toujours là. Hein, si sur un terrain, on met un promoteur... Et lui, ce qu'il va vouloir, c'est la rentabilité. Il va faire un maximum de maisons mitoyennes pour avoir un maximum de fric. Si au lieu de faire ça, on met un architecte un peu urbaniste et écologiste, il va penser l'espace autrement et on va faire du collectif et on va garder de l'espace pour jardiner, c'est évident. Enfin, pour jardiner, pour se promener, enfin, il faut du vert aujourd'hui. Le changement, il ne peut pas venir d'en bas. Ça ne peut pas être que sur la bonne volonté des gens. Ça peut venir que d'en haut. Ça peut être qu'imposé par une volonté politique et une volonté éducative. Ça ne peut pas être... Les bonnes volontés individuelles, il y en a plein, mais elles ne sont pas suffisantes.
On l'a compris, la question est politique. Et certainement qu'arranger les choses demanderait de repenser tout un système. Selon Yves, ça doit venir d'en haut. Probablement qu'une mobilisation par le bas, générale, radicale, pourrait également contribuer à redéfinir ce qui est essentiel. Peut-être les jardins seraient mis en valeur, ils seraient préservés, et cette urbanisation dont on parle en prendrait un coup. Nous avons soulevé la question de l'accessibilité à la terre. Selon Olivier, c'est la dynamique des habitants et habitantes de la vallée, inspirée de modes de vie urbains, qui conduirait à l'émergence de jardins partagés. Il paraît important de considérer la question des privilèges. Nous n'avons pas tous et toutes la possibilité de disposer d'un terrain ou jardiner, d'autant plus que ces espaces s'amoindrissent, deviennent plus rares, sont bien souvent ou en déprise, ou aménagés et détournés de leur caractère agricole. Les jardins partagés peuvent donc être un moyen de lutter contre l'expansion de ces espaces gris-béton. C'est du côté de l'histoire que nous aurions dû nous pencher. Avant, dans les communes, certains espaces étaient cultivés collectivement.
des parcelles permettaient de subvenir aux besoins, sinon d'une communauté, au moins d'une famille.
Juste pour replacer un peu les choses dans leur contexte au niveau du temps, avant c'était un village et ses hameaux qui étaient habités en grande majorité par des agriculteurs. Donc le jardin fait partie de la vie intégrante de chaque famille du village, avec la diversification des populations. On se retrouvait avec certaines personnes qui n'avaient pas les moyens de pouvoir exercer cette activité, quoi. Mais historiquement, le jardin fait partie intégrante de la vie de tous les habitants enracinés à Luz, quoi.
Vous savez qu'est-ce qu'il y avait avant ici ? Est-ce qu'il y avait un jardin, un autre jardin ? Est-ce qu'il y avait quelque chose ?
Ça fait relativement longtemps, on va dire... quelques décennies que c'est un immense pré, comme vous pouvez le voir. Mais effectivement, il y a eu une période où toute la grande parcelle était plus morcelée. C'est-à-dire qu'il y a des habitants qui avaient des tout petits morceaux dans cette immense parcelle et qui, effectivement, faisaient du jardinage. Mais il y a plusieurs décennies de ça, avant le remembrement, on va dire, qui a rassemblé les terrains entre eux.
Le remembrement, c'est une politique agricole qui a été mise en place à partir des années 50, visant à regrouper les différentes parcelles morcelées dans le but de faciliter la modernisation de l'agriculture. Ça a été un moyen d'engager les agriculteurs et agricultrices vers plus de productivité et de motorisation. Cette opération foncière de grande ampleur a profondément modifié les territoires et a eu des impacts dévastateurs, notamment en générant la destruction des haies et bocages bordant les parcelles, espaces pourtant essentiels au maintien d'une faune et d'une flore variées. Le remembrement voulait faire face à l'exode rural de la première moitié du XXe siècle. Et on se retrouve là, à observer de nos yeux les conséquences et de l'exode rural et des politiques agricoles du siècle passé. Maintenant, que fait-on ? Comment, dans les faits, pouvons-nous aider et permettre la réalisation concrète du désir de jardiner ? C'est à Luz-la-Croix-Haute que nous enregistrons Marc, conseiller municipal, Cathy et Myriam, jardinières auprès la Dame.
L'enjeu de départ, c'était surtout de trouver un terrain qui corresponde aux attentes. Donc finalement, on n'avait pas 36 solutions et on a trouvé le coin idéal, quoi. Ici, ça s'appelle le Pré-la-Dame. Donc c'est un terrain qui est communal, qui englobe le City Park qui est en face là-bas. Et voilà, il est à côté de la route, au milieu du village. Il y avait l'eau qui n'était pas très loin. Donc la mairie a pris en charge d'amener l'eau et de mettre un compteur pour le jardin. Mais ça s'est passé très facilement, dans le sens où tout le monde était OK pour le projet. Et puis en poussant un petit peu, ben, on a réussi à aller assez vite, hein, à trouver les autorisations et à demander ce qu'est une structure porteuse pour l'histoire de l'égalité. Et puis nous voilà, notre rôle s'est arrêté là. Maintenant, c'est au jardinier de jouer.
Parce que nous, en fait, en faisant ces recherches-là sur les jardins collectifs, ce qui nous intéressait aussi, c'était d'essayer de comprendre comment, en fait, des formes de jardinage comme ça peuvent se répandre un peu partout, un peu peut-être dans chaque village, voire des fois dans chaque quartier, pour que ce soit une activité qui soit aussi... qui mobilise du monde et du coup on voulait savoir comment est-ce que une mairie peut aider, soutenir et des fois justement engager ce genre de projet-là.
Ce qui est important, c'est qu'il y ait une volonté de départ des habitants. Je pense que toutes les mairies qui en ont la possibilité au niveau du terrain, parce que ce n'est pas non plus évident de trouver un terrain suffisamment bien placé, suffisamment... Mais je pense que le vrai point de départ, c'est les habitants qui l'ont eu et les organisateurs du projet. Après, la mairie suit ou pas, mais elle suivra dans pratiquement tous les cas, c'est certain. Mais il faut qu'il y ait une réelle volonté au départ, c'est ça qui est important.
Et encore, faut-il qu'elle soit à mesure d'entendre cette volonté-là et d'avoir accès à cette information-là aussi.
Oui, mais je vois mal une mairie refuser un projet pédagogique qui finalement, si elle a le terrain, parce que, encore une fois, c'est ça qui est le plus important, hein, c'est de trouver un terrain adéquat. Si elle a le terrain, je pense qu'il y aura très peu de mairies, j'espère même pas du tout, qui refuseront ce projet.
Je pense que le fait que la commune suive ce genre de projet, ça nous donne envie de rester sur la commune, c'est sûr. On serait dans une commune qui dit non. Voilà.
Franchement, en 3 jours, les trous pour les arbres ont été creusés par la commune. Après, des gentils agriculteurs se sont dépêchés pour labourer le terrain. D'autres personnes bénévolement, oui, on va créer, on va dire, on va chercher le grillage, on va chercher les poteaux. Et c'est, je trouve que cette commune a beaucoup d'autres associations aussi, la Diamère, j'en passe, les Lucioles, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses parce qu'on sent que la commune est là, derrière, ouverte. Et voilà, c'est très agréable. Être sur un terrain communal, mentalement, c'est très précieux parce que ça apporte vraiment plus que si on était chez un privé. Voilà. Et là, ça fait beaucoup plus ouvert à tout le monde. On a parlé compost, la commune a parlé compost aussitôt, en 15 jours, hop, les gars du Diwa, les gens du Diwa ont amené 3 composteurs et on s'y est mis à plusieurs. Je pense que c'est vraiment des belles initiatives, mais vraiment parce que aussi on sent que la commune est là et que elle nous abandonne pas quoi.
Là, c'est des choux, voilà, il y a des
choux. Là, c'est des choux cabus.
On les appelle cabus, oui.
C'est des choux de Milan.
Des choux de Milan, des choux cabus. Des coquelicots.
Ça, j'imagine que vous ne l'avez pas semé.
Non, on l'a pas semé, mais c'est beau.
Non, c'est du seigle.
Du seigle, oh.
Du seigle qui est venu là un petit peu par hasard, certainement dans la terre ou dans la paille. Oui, dans la paille, c'est ça.
Oui, des blettes. Quelque chose d'important, le triangle commune, association des Lucioles, habitants, dit, que l'on dit jardinier. Voilà.
La communauté de communes du Diwa a aussi largement participé à l'avancée des choses. Ouais.
Une espèce intéressante pour l'hiver, pour les salades d'hiver, parce qu'on peut les laisser au jardin jusqu'au mois de décembre sans problème. Après, on a quoi? On a du chou rave. Donc, on est dans les choux, là. Là, on a une espèce spécifiquement d'automne, hein, qui fait envie d'automne, le potimarron, qui est un des légumes le plus riche en toutes les vitamines possibles et imaginables. Hein. C'est certainement le légume le plus riche. Et puis, qui est d'excellente qualité gustative aussi.
Le plus riche, où on mange la peau, du maïs, des cosmos, de l'herbe à taupe.
Et moi, ce qui m'intéressait, moi et d'autres, hein, à la mairie, c'était au départ l'aspect pédagogique du projet, quoi, qui mêlait à la fois les jardiniers, les enfants, les associations et tous les gens qui voulaient, en fait, quoi.
Avoir le goût du jardin, c'est important.
D'autant qu'on est à la campagne, ce serait quand même dommage que les enfants ne sachent pas comment pousse un légume ou comment grandit un arbre. Je trouve que c'est hyper important, quoi, hein. Bon, c'est pour ça qu'on parlait des villes tout à l'heure. Ça a peut-être encore une autre importance parce qu'ils sont pas tous les jours, ils n'ont pas tous les jours l'occasion de voir un jardin ou de voir comment pousse une salade. Mais d'autant plus à la campagne où on a tous les éléments à la disposition pour que ça vive, ce serait encore plus dommage de s'en priver.
Quand on a proposé le projet à la mairie, en fait, sur ce projet, il y a deux pôles, comme je l'ai dit au tout début, le projet partagé pour les habitants et le projet pédagogique. Eux ont donné notre accord parce qu'il y avait ce projet pédagogique. Donc, dans l'idée était, donc on a eu une habitante qui est venue nous parler, qui avait l'intention de créer un club CPN, donc connaître et protéger la nature. Donc pour elle, le jardin pouvait être un support supplémentaire par rapport à ses animations qu'elle voulait faire avec les enfants. Et l'idée aussi était de solliciter, de dire à l'école, aux instituteurs, voilà, nous on a un côté pédagogique, on l'entretient, on est jardinier, on l'entretient, il est ouvert. Vous venez quand vous voulez avec les enfants pour jardiner, éventuellement avec cette animatrice. Voilà, et c'est ce côté-là aussi qui a joué dans la décision, je pense, du conseil municipal, d'inclure les enfants au départ dans ce jardin pour éventuellement les ouvrir effectivement à tous ces problèmes de nature, de biodiversité. Mais ce n'était pas forcément nous, les animateurs, parce qu'on n'est pas capable de faire ça forcément. On n'a pas forcément envie non plus, ou ce n'est pas notre métier. Mais par le biais des instituteurs et des animateurs nature, leur donner un outil pédagogique pour ça, effectivement.
Avec Vincent, nous cherchions la petite bête.
C'est là qu'on on vient chercher un petit peu, c'est sur la dimension politique de cette affaire, de ce jardin.
Ben, tout est politique. Donc effectivement, oui, c'est politique. Voilà. On est discret et on fait de la politique, mais toutes les associations font ça. Tous les bénévoles font ça. Voilà. Donc après, être soutenu par une mairie, c'est extraordinaire. Et autant que, voilà, s'il y a d'autres mairies qui ont envie de faire ça, qu'elles le fassent, hein, c'est sûr.
Ce qu'on avait envie d'imaginer, c'est que partout, à tout instant, des jardins sortent de terre. Et selon nous, la mairie est un espace privilégié pour aider et faciliter ce type de projet. On s'imaginait même qu'elle puisse inciter ses habitants et habitantes à s'investir pour une production maraîchère locale. Qu'elle puisse mettre à disposition des terrains, des outils, qu'elle s'engage pleinement. Nous délirions.
Ils les ont gardés pour faire les graines.
Ah oui.
Voici le bruit du haricot qu'on ouvre.
Regarde comme c'est beau.
Océane. J'aime pas dire mon prénom.
Ah oui,
je sais pas. Je sais pas si je l'aime bien.
Faut changer.
C'est la question du commun. Et moi, la question du commun, je l'attrape justement dans la relation aux insectes pollinisateurs, où finalement, la ressource au nectar, c'est un commun. et que cette ressource du nectar qui est dans la fleur demande à ce qu'il y ait une floraison permanente. Donc il faut une grande diversité de végétaux. Et que dans cette grande diversité de végétaux, on va trouver plein de végétaux qui vont donner des fruits, qui vont donner des légumes, qui vont donner, qui seront médicinales, qui seront condimentaires, qui seront ornementales, etc. Voilà. Donc la question du commun, moi j'y vais par ce biais-là. Et en plus, ce n'est même pas moi qui conduis, qui va dire que j'ai besoin de telle ou telle plante. C'est par l'observation des abeilles à la ruche, qui est presque une sonde. C'est pas une sentinelle pour moi, c'est une sonde. C'est-à-dire que en voyant et les ressources en miel et les ressources en pollen, parce que les deux sont liés, si ça manque de ressources en miel ou en pollen à une période, ça veut dire qu'il faut apporter en réponse des espèces végétales qui seront en fleur au moment où il y a un déficit de ressources. Voilà. Donc c'est plutôt moi qui me met en lien avec les abeilles, ce sont les abeilles qui me disent ce que je dois faire. C'est en cela où il y a une espèce de communication qui se crée, et que cette communication qui se crée fait que, en résultat, il y a un jardin qui est en train d'être mis en place, et que c'est en cela où ce jardin, finalement, va devenir un jardin protéiforme, qui va produire du nectar et du pollen pour les abeilles et les insectes pollinisateurs, mais évidemment qui va produire des fruits, des légumes, des condiments, etc. Mon projet, c'est vraiment créer un récit. La question du récit, c'est les scientifiques apportent de la connaissance, mais ils ne font pas un récit. D'ailleurs, ce n'est pas leur boulot, ils savent très peu faire. Le récit, ils vont faire des diagrammes, ils vont faire des tableaux, il va falloir les lire, il va falloir les décrire, etc. Bon. Et après, ils font des rapports, et nous, en lisant les rapports, il faudrait qu'on soit tous sensibles et qu'on sache lire un rapport. Et de fait, le rapport du GIEC, c'est un peu ça. Moi, je serais pour qu'il y ait des artistes qui lisent les rapports du GIEC et après qui font un travail artistique, justement, où ça sera un objet sensible et affectif, avec des affects, que là, on va pouvoir s'approprier. Donc moi, ma question, c'est plutôt la question des affects, dans la situation dans laquelle on se trouve. Et moi, la situation de mes affects et de ce que je vis sensiblement ici, avec une présence continue de floraison, je vois, là on regarde, il y a des papillons, c'est pas la ferme aux papillons, mais il y a une présence de papillons. Partout où on regarde, il y a toujours un truc qui vole, quoi. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'endroits. Le récit que je tente de créer, ça se fait avec les abeilles, parce que les abeilles, on a une ancienne, très ancienne relation, et que on a un intérêt avec les abeilles, parce qu'elles créent cette ressource qui est absolument incroyable, qui est le miel. Et ce miel est le fait que ça soit super bon et qu'on le goûte, etc., c'est déjà un objet sensible, c'est déjà un objet, voilà. Et donc, moi, travailler sur cette relation sensible entre une ressource produite par un animal avec lesquels on va créer un partage et des intérêts en commun, ça permet d'ouvrir des imaginaires et ça permet d'ouvrir, on va dire, des possibilités d'agir, qui fait que on n'est pas que sur des conditions scientifiques, mais aussi on est sur sur une relation de désir et désirante.
Il pleut. Ça fait du bien.
mettons de la poésie dans la vie, parce que c'est ça qui va, non seulement qui va nous faire du bien, parce que comme tu disais, on va pouvoir du coup vivre mieux, mais c'est aussi, mais cette poésie a aussi de l'intérêt pour ce qui est de notre, à la fois de notre bien-être psychique et de notre bien-être physique, puisqu'on va pouvoir du coup se nourrir peut-être mieux, et être en meilleure santé, et dire voilà.
Comment dire, c'est aujourd'hui on est dans une situation moi, que je trouve absolument passionnante, et je suis dans une relation passionnée dans le sens où notre génération, donc ma génération à moi qui est à la cinquantaine maintenant, je me sens comme une responsabilité à créer un sens, c'est-à-dire que il faut créer du sens et sensible et un sens désirant qui fait que de la façon dont on agit a du sens. Voilà, en gros, c'est ça. Et on est à une situation actuellement où la machine désirante est basée sur, on va dire, le pétrole. Donc, la machine désirante, c'est partir en vacances, partir loin. C'est ce qu'on fait tous, moi le premier. Je ne m'exclus pas là-dessus. Mais aujourd'hui, il me semble, pour être dans d'autres machines désirantes et dans d'autres perspectives, il s'agit de se réapproprier nos espaces locaux, que ces espaces locaux peuvent prendre des aspects d'exploration tels qu'on l'a fait dans des confins et dans du très lointain, que finalement les lointains n'existent plus, les confins n'existent plus, la question du confin est exclue de nos rêves aujourd'hui. Retourner la question de l'exploration à l'ici et non pas au lointain, ça devient un enjeu vraiment important, parce que finalement, on ne connaît pas les sols que l'on foule aujourd'hui, là où on est. On les connaît très peu. Et finalement, ce désir, on peut créer de la machine désirante sur de l'ici et d'aujourd'hui, plutôt que sur du lointain et difficile à accéder, quoi. Donc après, en retournant l'objet des désirs, et en les plaçant plutôt dans du proche, ben finalement, on va régler plein de problèmes, quoi. On n'a plus besoin d'aller loin pour s'évader, parce que l'évasion, elle est là où on est. Mais pour créer de l'évasion, il faut créer du désir, il faut créer du sens, et il faut créer des relations affectives qui soient de l'ordre de la proximité. Et il se trouve que l'abeille est une merveilleuse compagne là-dedans, dans ce voyage.
Regarde, là-haut.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a un rouge-gorge.
C'est aussi, ça nous est aussi utile, ça nous est, il y a aussi la dimension pratique de la chose, c'est-à-dire que ça permet de se nourrir.
Eh ben oui, mais le pragmatisme et le désir sont intimement liés. Les liens que l'on peut avoir par rapport à un désir, les liens sont, comment dire, c'est presque un lien de vie et de mort.
Oui,
quoi.
Oui, c'est ce que j'ai dit, un truc comme ça. Oui. Tu vois ?
Maintenant, les exigences en retour par rapport à la situation écologique planétaire, mondiale et locale, va faire qu'il va y avoir des liens d'exigence qui sont en train d'être remodelés, et que ces liens d'exigence, il faut les charger de désir. Ou sinon, ça sera contraint et ça sera très très mal vécu. L'artiste, il crée du désir. Je ne peux pas te dire qu'autrement. Bach, il crée du désir. Mozart, il crée du désir. Hayam crée du désir. Ça n'existe pas. Et même, tu vois, par exemple, le chanteur de Noir Désir, à partir du moment où il a tué quelqu'un, il était mort artistiquement, il ne pouvait plus revivre. C'était foutu. L'objet artistique, c'est toujours quelque chose qui est du côté de la vie.
C'était Il est une vallée. Reportage, épisode 2. Des jardins en commun.